Samuel Johnson, Histoire de Rasselas, Prince d'Abyssinie, chapitre 41 à 45. Chapitre 41. L'astronome révèle la cause de ses inquiétudes. Enfin arriva le moment où son secret se fit jour en dépit de sa réserve. Nous étions assis ensemble hier soir dans la tour de sa maison, épiant l'émersion d'un satellite de Jupiter. Un orage soudain obscurcit le ciel et dérouta nos observations. Nous restâmes quelques instants en silence dans l'obscurité. Alors, s'adressant à moi, il me dit « Imlac, je considère depuis longtemps ton amitié comme le plus grand bonheur de ma vie. La vertu séparée de la science est sans pouvoir et sans utilité pour les hommes. La science séparée de la vertu est dangereuse et funeste. Je trouve en toi toutes les qualités qui commande ma confiance, bonté, expérience et courage. Depuis longtemps, je remplis une charge que la nature m'avertit de quitter dans peu, et je serai heureux de te la transmettre dès que les infirmités de la vieillesse auront affaibli mes organes. Ce témoignage m'honorait, je l'assurais que tout ce qui contribuerait à son bonheur ajouterait au mien. Écoute, Imlac, ce que tu auras peine à croire. Voilà 5 ans que je règle les variations du temps et l'ordre des saisons. J'ai dicté des lois au soleil, qui par mon ordre a passé tour à tour d'un tropique à l'autre. À ma voix, les nuages se sont résolus en pluie. J'ai réglé les débordements du Nil, mis un frein à la rage de la canicule et tempéré les ardeurs du cancer. Seul de toutes les puissances élémentaires, les vents ont jusqu'ici refusé de reconnaître mon autorité et des milliers d'êtres ont continué à périr dans les tempêtes de l'équinoxe que je me suis toujours trouvé incapable de prévenir ou de modérer. J'ai rempli ces hautes fonctions avec une exacte impartialité. Chaque nation a eu sa juste part de la pluie ou du beau temps. Quelle aurait été la misère d'une moitié du globe si j'avais amoncelé les nuages sur telle ou telle région et confiné le soleil sur un seul côté de l'équateur. Chapitre 42. Explication justificative de l'opinion de l'astronome. Je suppose que malgré l'obscurité de la chambre, il découvrit en moi quelques signes d'étonnement ou d'incrédulité, car après une courte pause, il reprit ainsi. L'hésitation que tu mettrais à me croire ne pourrait ni me surprendre ni m'offenser. Je suis probablement le premier à qui une semblable mission a été confiée, et je ne sais si je dois regarder cette distinction comme un effet de la faveur ou de la colère divine, car depuis qu'elle m'a été accordée, j'ai été beaucoup moins heureux qu'auparavant, et le sentiment seul du devoir a pu me faire supporter les fatigues d'une surveillance de tous les instants. « Depuis combien de temps, lui demandai-je, cette charge importante est-elle entre vos mains ?»« Il y a 10 années environ, dit-il, que mes observations sur les mouvements du ciel me conduisirent à examiner s'il me serait possible, une fois investi du gouvernement des saisons, d'ajouter à l'abondance qui règne sur la terre. Je m'absorbais dans cette contemplation et jour et nuit je me livrais à l'exercice de cette puissance imaginaire. » Versant tantôt sur un pays, tantôt sur un autre, la pluie, mère de la fécondité, ayant toujours soin d'en seconder les effets par le retour du beau temps dans une juste mesure. Je n'avais alors que la volonté de faire le bien, et je n'imaginais pas que j'en dusse jamais avoir la puissance. Un jour, que je regardais les campagnes desséchées par la chaleur, je sentis en moi un désir soudain de faire tomber la pluie sur les montagnes du sud, et d'élever le Nil au point d'inonder le pays. Dans le transport de mon imagination, j'ordonnai effectivement aux eaux du ciel de descendre vers la terre, et en rapprochant l'instant où je parlais du moment où l'inondation s'opéra, je reconnus que les nuages avaient obéi à mes paroles. « Cette coïncidence ne peut-elle pas tenir à une autre cause ? » dis-je. « Le Nil ne déborde pas constamment à jour fixe. » « Ne croyez pas, me répondit-il, avec impatience, que cette objection m'ait échappé. Je cherchais longtemps des armes contre ma propre conviction. Je la combattis avec opiniâtreté. Plus d'une fois, je me suis soupçonné de démence, et je n'aurais jamais confié mon secret qu'à un homme tel que vous, capable de distinguer ce qui est merveilleux de ce qui est impossible, et ce qui est incroyable de ce qui est faux. Pourquoi, ajoutai-je, appelez-vous incroyable ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir être vrai ? Parce que, reprit-il, je ne puis en fournir la preuve matérielle. Je connais trop bien les lois de la logique pour penser que ma conviction passera dans l'esprit d'un homme qui ne saurait avoir comme moi la conscience de la force qui m'a convaincu. Je renonce donc à persuader par le raisonnement. Il suffit que je sente mon pouvoir, que depuis longtemps je le possède et que chaque jour j'en fasse l'épreuve. Mais la vie de l'homme est courte. Les infirmités de l'âge s'accumulent sur moi et le temps approche où le régulateur des saisons sera confondu avec la poussière. La recherche d'un successeur m'occupe depuis longtemps. Nuit et jour, je pèse la valeur des hommes que j'ai pu connaître, et nul ne me paraît plus digne que toi de ma confiance. Chapitre 43. L'astronome donne ses instructions à Imlac. Écoute donc ce que j'ai à t'enseigner avec l'attention que réclame le bonheur d'un monde. Si c'est une grande tâche que celle d'un roi, qui n'a pourtant à s'occuper que de quelques millions d'hommes, à qui il ne peut faire ni beaucoup de bien, ni beaucoup de mal, quelle ne doit pas être la responsabilité de celui qui tient dans ses mains la conduite des éléments et l'importante répartition de la lumière et de la chaleur. Prête-moi donc une oreille attentive. J'ai soigneusement observé la position de notre globe et celle du soleil. J'ai fait d'innombrables systèmes pour changer leur situation. Il m'est arrivé de déplacer l'axe de la Terre, de tracer au Soleil notre écliptique, mais je n'ai pu rencontrer une combinaison telle que la disposition nouvelle fût à l'avantage du monde entier. Ce qu'une région gagne, l'autre la perd par une altération naturelle, en faisant même abstraction de ces parties éloignées du système solaire qui ne nous sont point connues. Garde-toi donc, en gouvernant la marche de l'année, de céder à l'orgueilleux désir d'innover. Ne te laisse point aller à l'idée séduisante de conquérir dans les siècles futurs une haute renommée, en mettant le désordre dans les saisons. C'est une célébrité bien peu digne d'envie que celle qu'on doit au mal qu'on a fait. Garde-toi surtout de céder à l'affection ou à l'intérêt, et ne dérobe point la pluie aux autres contrées pour les pencher sur le tien. Le Nil suffit à nos besoins. Je lui promis qu'une fois investi de sa puissance, j'en userai avec une inflexible impartialité. Et il me congédia, me pressant la main. « Mon âme sera maintenant en paix, » dit-il. « Ma bienveillance ne détruira plus mon repos. J'ai trouvé un homme sage et vertueux à qui je puis avec joie léguer l'héritage du soleil. » Le prince entendit ce récit avec une sérieuse attention, mais la princesse sourit et Pekua tomba dans un rire convulsif. « Mesdames, » dit Imlac, « se moquer d'une des plus grandes afflictions de l'humanité, n'est ni charitable ni sage. Il est donné à bien peu de gens d'égaler cet homme en science, à bien peu de pratiquer ses vertus, et tous peuvent être atteints de la même infirmité. De toutes les chances attachées à la condition humaine, la plus effrayante et la plus terrible est la fragilité de notre raison. » Cette observation rappela la princesse à elle-même et fit rougir la favorite. Rasselas, plus profondément affecté, demanda à Imlac s'il pensait que cette maladie de l'esprit fût commune et à quelle cause il fallait l'attribuer. Chapitre 44. Danger de l'imagination. Les égarements de l'esprit, répondit Imlac, sont beaucoup plus communs qu'on ne le croirait après un examen superficiel. Peut-être même, rigoureusement parlant, l'esprit humain n'est-il jamais parfaitement dans son assiette. Il n'est pas un seul homme dont l'imagination ne fasse taire quelquefois la raison, un seul dont l'attention se règle toujours par sa volonté et dont les idées aillent et viennent constamment à son ordre. Qui de nous est exempt de ces idées fantastiques qui, de vive force, font franchir les limites du possible à nos espérances et à nos craintes? Tout ascendant de l'imagination sur la raison est un degré de folie. Tant que cet ascendant ne reste pas sans contrôle et qu'on peut le dominer, il échappe à la vue et n'est pas considéré comme une altération des facultés mentales. Il n'est réputé folie que lorsque, ne connaissant plus de frein, il se manifeste visiblement dans nos actions et nos paroles. C'est le propre des hommes trop amis du silence et de la méditation de se repaître facilement de chimères et de laisser errer leur imagination dans des espaces sans limite. Quand on est seul, on n'est pas toujours occupé. Le travail de la pensée est trop pénible pour durer longtemps. L'ardeur de l'étude fait place à des moments de relâche et de satiété. L'homme qui n'a en dehors de lui-même aucun objet de distraction demande bientôt à son esprit des images qui lui plaisent. Alors il se suppose ce qu'il n'est pas, car est-il un seul homme content de ce qu'il est? Il se lance dans les champs infinis de l'avenir. Il choisit dans les diverses combinaisons possibles de l'existence celle qui le charme le plus dans le moment. Il ne refuse à ses désirs aucune jouissance imaginable et prodigue à son orgueil un pouvoir auquel il ne saurait atteindre. Alors l'imagination voltige de scène en scène, rassemble tous les plaisirs, les varie sous toutes les formes et se plonge dans les délices que toute la libéralité de la nature et de la fortune ne pourrait réaliser pour l'homme. Par degrés, l'attention se fixe sur un enchaînement particulier d'idées et rejette toute autre jouissance intellectuelle. Dans la lassitude comme dans le repos, on revient sans cesse à la conception favorite. On détourne la coupe amère de la vérité pour s'enivrer de doux mensonges. Insensiblement, l'empire de l'imagination devient absolu, puis tout à fait despotique. Les illusions commencent à agir comme des réalités. De fausses images s'attachent à l'esprit et la vie passe dans les rêves de ravissement ou d'angoisse. Voilà, Seigneur, un des dangers de cette solitude qui, suivant l'ermite, ne porte pas toujours à la vertu et qui n'est pas toujours propice à la raison, comme le prouve le déplorable exemple de l'astronome. « Désormais, dit la favorite, je ne veux plus imaginer que je suis reine d'Abyssinie. J'ai souvent passé les heures où la princesse me laissait libre à régler le cérémonial et l'étiquette de la cour. J'ai réprimé l'orgueil des hommes puissants et accueilli la demande du pauvre. J'ai bâti des palais nouveaux dans des sites plus riants, planté des bosquets sur la cime des montagnes. Et j'étais tellement transporté du bien qu'on peut faire du haut d'un trône que lorsque la princesse venait à entrer, j'oubliais presque de m'incliner devant elle. Et moi, dit la princesse, je ne veux plus dans mes songes éveillés me donner le plaisir d'être bergère. L'innocence et la paix de la vie pastorale ont souvent séduit ma pensée au point que, même dans ma propre chambre, j'entendais le murmure des zéphyrs et le bêlement des moutons, que j'allais délivrer l'agneau embarrassé dans les buissons et parfois même combattre le loup avec ma houlette. Je me suis procuré des vêtements de villageoise. Je m'en revais pour ajouter à mes illusions. Enfin, je possède un chalumeau dont je tire de doux sons, et il me semble dans ma rêverie que mon troupeau suit mes pas. « J'ai à m'accuser, dit le prince, d'une faiblesse plus dangereuse que les vôtres. J'ai souvent aimé à me figurer un gouvernement parfait, où tous les maux sont prévenus, tous les vices réformés, et tous les sujets maintenus dans le repos et l'innocence. » Cette pensée faisait naître en moi d'innombrables projets de réforme et me dictait une foule de règlements utiles et d'édits salutaires. C'était le délassement et quelquefois le travail de ma solitude, et je frémis quand je pense avec combien peu de douleur j'ai pu supporter la mort de mon père et de mes frères. Tel est, dit Imlac, l'effet des visions. Quand on commence à les former, on sait bien qu'elles sont absurdes, mais on s'y habitue par degrés, et plus tard, on finit par ne plus en voir l'extravagance. Chapitre 45. Entretien avec un vieillard. La soirée s'avançait. Ils se levèrent pour retourner au logis. Ils marchaient le long du Nil, contemplant avec délice l'éclat de la lune qui se réfléchissait en tremblant sur les eaux. Ils aperçurent à quelques pas un vieillard que le prince connaissait pour l'avoir entendu souvent à l'Assemblée des Sages. « Voilà, dit-il, un homme dont les années ont calmé les passions sans obscurcir son intelligence. Demandons-lui, pour clore nos travaux de la soirée, ce qu'il pense de sa condition. Nous apprendrons si la jeunesse est seule condamnée à lutter contre mille tourments et si un meilleur avenir nous attend à la fin de la vie. » Le sage les salua en les abordant. Ils l'invitèrent à se joindre à leur promenade et la conversation s'engagea comme entre gens de connaissance que le hasard fait rencontrer. Le vieillard avait l'esprit enjoué et communicatif. Le chemin leur parut court en sa compagnie. Sensible à l'attention qu'on lui prêtait, il les accompagna jusqu'à leur logement et, sur l'invitation du prince, il entra avec eux. On lui donna la place d'honneur et l'on servit devant lui du vin et des confitures. « Monsieur, lui dit la princesse, une promenade du soir doit pour un homme comme vous avoir un charme dont l'ignorance et la jeunesse ne peuvent se faire d'idées. Vous connaissez les qualités et les causes de tout ce qui se présente à votre vue, les lois qui déterminent le cours du fleuve et les périodes des révolutions planétaires. Chaque objet devient une source de méditation et réveille en vous le sentiment de votre dignité. » « Madame, répondit le vieillard, il faut des sensations fraîches et des membres dispos pour trouver un plaisir dans la promenade. C'est assez pour mon âge d'y puiser quelques délassements. L'aspect du monde n'a plus rien de nouveau pour mes yeux. Je ne regarde autour de moi que pour revoir ce que j'ai vu dans un plus heureux temps. Si je m'appuie contre un arbre, c'est pour me souvenir que sous ce même ombrage, j'ai raisonné sur le débordement périodique du Nil avec un ami qui aujourd'hui se tait dans la tombe. Si je lève les yeux au ciel, la lune avec ses phases me fait faire un retour pénible sur les vicissitudes de la vie. J'ai cessé de prendre un vif intérêt aux vérités de la physique, car qu'ai-je à faire de cette nature dont je vais bientôt prendre congé ? Vous trouvez du moins, dit Imlac, quelque jouissance dans les souvenirs d'une vie honorable et utile, et dans le concert de louanges qui s'élève autour de vous. La louange, dit le sage avec un soupir, sonne bien creux aux oreilles d'un vieillard. Je n'ai plus de mère à rendre heureuse de la renommée de son fils, plus de femme à qui faire part des honneurs de son époux. Je survis à mes amis et à mes rivaux. Rien n'a pour moi d'intérêt bien vif, puisque cet intérêt ne s'étend pas au-delà de moi. La louange est ravissante pour la jeunesse, parce que c'est le gage d'un bien à venir et qu'une longue perspective s'ouvre devant elle. Mais pour qui touche comme moi à la décrépitude, il reste peu à redouter de la malveillance des hommes et moins encore à espérer de leur affection ou de leur estime. Ils peuvent bien m'ôter quelque chose, mais ils ne peuvent plus rien me donner. Les richesses me seraient inutiles, des emplois me seraient à charge. Que vois-je si je regarde en arrière ? Beaucoup d'occasions de bien faire négligées, beaucoup de temps prodigué à des choses futiles, et plus de temps encore consumé dans l'inertie et l'oisiveté. Je laisse de grandes idées en germe, de grands projets ébauchés. Du moins, aucun crime ne pèse sur mon âme. La résignation m'est donc possible. Je tâche d'écarter de mes pensées et ces soucis et ces espérances qui s'efforcent d'y reprendre leur vieil empire en dépit de la raison et qui m'en démontre le néant. J'attends avec une résignation calme cette heure que la nature ne peut tarder à me marquer, espérant trouver dans une vie meilleure et le bonheur que je n'ai pu découvrir ici-bas et la vertu qu'il ne m'a pas été donné d'atteindre. Il se leva et prit congé de ses auditeurs qu'il laissa refroidi sur les avantages d'une longue vie. Le prince se consola en remarquant que ce récit n'avait rien qui pût raisonnablement décourager, puisque la vieillesse n'a jamais été regardée comme l'âge des jouissances. L'exemple du vieillard prouvant qu'une sorte de bien-être n'est pas incompatible avec le déclin des forces et la caducité même, on pouvait en conclure la possibilité d'être heureux dans l'âge de la vigueur et de l'activité. Pourquoi le midi de la vie ne pouvait-il être brillant quand le soir en pouvait être serein ? La princesse penchait à s'en prendre à l'humeur chagrine et jalouse de la vieillesse qui se plaît à détruire les jeunes espérances. Elle avait vu des riches porter envie à leurs héritiers et d'autres ne goûter les plaisirs qu'autant qu'ils pouvaient s'en rendre la jouissance exclusive. Pécoua supposait cet homme plus âgé qu'il ne paraissait l'être et croyait devoir expliquer ses plaintes par le dérangement de ses facultés, ou peut-être avait-il été malheureux, et alors il voyait tout en noir. Car, disait-elle, rien n'est plus commun que d'appeler notre condition particulière, individuelle, la condition de l'humanité. Imlac, qui ne voulait pas détruire leur confiance, souriait en les voyant si ingénieux à trouver des interprétations favorables. Il se rappelait qu'à leur âge, il ne doutait pas plus qu'eux de la réalité du parfait bonheur et savait également se créer des consolations. Il s'abstint donc de brusquer la révélation de la triste vérité que le temps ne devait que trop leur faire connaître. La princesse se retira avec sa compagne. La folie de l'astronome ne leur sortant pas de l'esprit, ils prièrent Timlac de commencer l'exercice de sa charge et de retarder le lendemain matin le lever du soleil.